Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un retournement diplomatique, celui de la ligne rouge tracée par Barack Obama contre l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Il y a quelques semaines, par devoir de mémoire, on célébrait le drame de Verdun, drame de la Grande Guerre. C'est durant ce conflit que pour la première fois dans l'histoire du monde, les belligérants utilisèrent les gaz pour tuer. Pendant des décennies, sur les terrains de bataille, le spectre chimique comble de l'horreur et de la cruauté réapparaissait au Vietnam, en Égypte, en Irak. Il a fallu attendre 1997 pour qu'entre en vigueur une convention sur l'interdiction des armes chimiques, mise au point, fabrication, stockage et usage. Et pourtant, en Syrie, ce fléau est réapparu. Voilà 5 ans que ce pays connaît la guerre. Aujourd'hui, le bilan s'élève à près de 470 000 morts et plus de 10 millions de réfugiés ou déplacés. En 5 ans, tout a été bouleversé. La révolte est devenue révolution, puis s'est transformée en une guerre civile et internationale qui a connu tournants et retournements. Une date, celle du 21 août 2013, est importante. Ce jour-là, à Routa, dans la banlieue de Damas, plus de 1400 personnes ont été tuées par bombes chimiques. Qui s'en souvient aujourd'hui? Qui se rappelle ces hommes, femmes et enfants asphyxiés et mourant dans les hôpitaux de fortune? Routa fut pourtant l'un des crimes de guerre perpétrés par le régime de Bachar al-Assad. D'autres ont suivi sur les champs de bataille comme dans les prisons du régime syrien. Pour parler de cette guerre et de ses victimes, nous recevrons en seconde partie Garance Lequen, grand reporter, journaliste indépendante qui travaille notamment pour le Journal du Dimanche et le Nouvel Observateur. Elle est l'auteur du livre intitulé « Opération César » publié chez Stock, où elle raconte le quotidien et l'organisation de la machine de mort du régime syrien sur la base de témoignages, dont celui de César, photographe de la police militaire qui a risqué sa vie en exfiltrant pendant 2 ans 45 000 photos et documents de détenus torturés à mort. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Printemps 2013, Routa, banlieue de Damas. En arabe, Routa signifie « oasis ». Il fut un temps où cette ville était le croissant fertile de la capitale syrienne. Désormais, c'est un épicentre de la guerre en Syrie entre les fidèles du régime et ses opposants. Ici, dans un dédale d'immeubles en ruine, civils et combattants vivent reclus, sans eau ni électricité, que le régime a préféré couper. Assiégés, ils sont sur la ligne de front, la plus proche en tout cas du pouvoir et de Bachar al-Assad. Voilà 2 ans que la révolte a éclaté en Syrie. 2 ans au cours desquels les manifestants sont devenus révolutionnaires, puis soldats, et qu'ils espèrent que les despotes comme en Tunisie ou en Égypte vont quitter le pouvoir et laisser place au changement. En Syrie, tout a commencé au printemps 2011. Pourtant interdit en raison d'un état d'urgence devenu permanent, les premiers appels à manifester sont postés en mars sur Facebook. Dès les premiers rassemblements, la mobilisation entraîne la répression. À Dera, au sud du pays, près de la frontière jordanienne, des adolescents sont arrêtés pour avoir inscrit sur des murs un graffiti où l'on pouvait lire « Le peuple veut la chute du régime ». Le 23 mars 2011, une manifestation qui réclamait la libération de ses enfants s'est finie par la mort d'une dizaine de manifestants. 10 jours plus tard, les gamins sont libérés après avoir été torturés. Malgré les coups, malgré les morts, le mouvement s'amplifie et s'organise. En juillet 2011, une armée syrienne libre voit le jour. L'opposition politique prend également un visage et un nom avec la création du Conseil national syrien à Istanbul. Ce même mois, les dirigeants anglais, américains, allemands et français demandent le départ de Bachar al-Assad. Moscou, suivi par la Chine, refuse en revanche toute résolution de l'ONU sur la situation en Syrie. Pour l'instant, les diplomates restent à distance du chaos syrien. Durant l'année 2012, un an après le début du soulèvement, la crise se militarise avec un nombre croissant de victimes. La répression du régime est de plus en plus féroce, comme dans la ville de Houla, au nord de Homs, où le 25 mai 2012, plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants, sont assassinées par les troupes et milices du gouvernement syrien. Un mois après ce drame, l'armée syrienne libre lance une vaste offensive au cœur de Damas et d'Alep. La guerre urbaine débute. Alors que les combats font rage, le 23 juillet 2012, le gouvernement syrien, par la voix du Djihad Makdisi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, menace.
Tous les stocks d'armes non conventionnelles ou d'armes chimiques ne seront jamais, jamais utilisés contre les civils et les citoyens syriens, quelle que soit l'évolution de la crise. Tous ces stocks d'armes sont sous la surveillance étroite des forces armées syriennes. Ces armes ne seront utilisées que si la République arabe de Syrie fait face à une agression extérieure. Ce sont les généraux qui décideront quand et comment les utiliser.
Après des semaines de rumeurs, le régime syrien confirme qu'il possède un stock d'armes chimiques. Un mois plus tard, le président américain répond à cette menace.
Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle des armes chimiques ou biologiques tomberaient dans les mains de mauvaises personnes. Nous avons fait savoir de façon claire au régime d'Assad et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous. Si nous commencions à voir des armes chimiques déplacées ou utilisées, cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation.
Barack Obama prend acte devant la communauté internationale et auprès du peuple syrien qu'une ligne rouge est désormais tracée. Toute utilisation d'armes chimiques aura des conséquences. Mais jusqu'où ira le président américain? Sera-t-il suivi? Quelle sera la réaction de la communauté internationale en cas de crime à l'arme chimique? Avril 2013, quartier Jobar, à Damas. La nuit, sur les toits, on peut voir deux mondes qui se font face. À l'ouest de la ville, du palais présidentiel jusqu'à la place des Abbassides, les quartiers sont illuminés. Dans la périphérie, sur la route A, c'est l'obscurité qui règne. En ce printemps 2013, Jean-Philippe Rémy et Laurent van der Stock sont les premiers journalistes à rejoindre Jobar. Partis quelques semaines plus tôt de France pour le journal Le Monde, ils arrivent pour deux mois d'enquête auprès des opposants à Bachar al-Assad. Aux alentours de la capitale, les positions de chaque camp se sont fixées. Les forces gouvernementales tiennent le mont Kassioun qui surplombe la ville, mais aussi les principaux axes routiers et l'arrière des plaines de la Routa que les rebelles, eux, contrôlent. Jobar est la ligne de front la plus avancée au port du régime. Pour l'atteindre, on doit traverser des immeubles, suivre des flèches, enjamber mur après mur des dizaines d'appartements. De ces maisons percées, la vie s'est peu à peu échappée. Seule la guerre et la mort y ont trouvé domicile. Au sein d'une des katibas de Jobar, les deux journalistes français découvrent le quotidien de ces combattants, jeunes étudiants ou anciens soldats de l'armée. Un quotidien qui charrie son cortège de blessés que l'on transporte à la va-vite à l'aide d'un linge ou d'un matelas abandonné. Et puis un jour, Jean-Philippe Rémy et Laurent van der Stock rencontrent l'ennemi invisible.
Cette révolution est une révolte orpheline. Personne ne nous a aidés. On veut que d'autres pays nous soutiennent. Regarde, là où on est assis, et eux, ils sont en train de nous bombarder. C'est rien, mais apporte-nous des masques. Ce salaud nous balance des armes chimiques. On a entendu une explosion et on a senti l'odeur. Tout de suite, on a eu du mal à respirer. On voyait flou. Et on avait des maux de tête. Mais Dieu merci, on se sent mieux maintenant.
L'utilisation d'armes chimiques n'était pour l'heure qu'une rumeur que l'on tenait des réfugiés et des combattants. En septembre 2012, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel rapporte que des essais auraient été effectués à l'est d'Alep en août. En décembre 2012, nouvelle alerte. À Homs, à la veille de Noël, dans le quartier d'Al-Bayada, des armes chimiques auraient été utilisées. Ces gaz auraient provoqué la mort de plusieurs personnes. Alors, une mission d'enquête de l'ONU demandée par la France, le Royaume-Uni et les USA est ouverte le 21 mars 2013. Mission dont Bachar al-Assad refuse la tenue et l'accueil dans son pays. Un mois après l'ouverture de cette enquête à Jobard, Jean-Philippe Rémy et Laurent Vanderstock découvrent cette arme sans odeur qui touche l'intérieur des corps sans laisser de blessures apparentes. Au sein des Katibas, côté des armes et des munitions, les rebelles de la banlieue de Damas doivent se munir de masques à gaz afin d'éviter les effets des explosifs chimiques du gouvernement. Les civils, eux, ne peuvent se protéger. C'est dans les couloirs des hôpitaux de fortune que d'autres voix témoignent du quotidien des attaques au gaz. C'est le cas du docteur Hassan du centre médical de Kafr Batna que les deux journalistes du Monde ont rencontré.
Environ 20 patients sont arrivés de Jobar, civils et combattants. Ils se plaignaient d'avoir du mal à respirer. Ils avaient des rougeurs, les yeux rouges et les pupilles contractées. Ils souffraient de nausées, de vomissements et certains toussaient du sang. J'ai traité ces patients. Et une heure après, j'ai ressenti les mêmes symptômes. J'ai été traité à l'atropine, à l'hydrocortisone. On m'a mis un masque à oxygène. Et après une heure de ce traitement, je me suis senti mieux.
Le 27 mai 2012, après leur retour, Le Monde publie l'enquête des deux journalistes, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Dans leur bagage, ils ont aussi rapporté 21 échantillons de vêtements, de cheveux, de sang et d'urine. Prélevés dans un centre médical dans la région de Damas, à Kafr Batna, ils sont transmis le 18 mai au Centre d'études français du Boucher, seul laboratoire en France équipé et certifié dans le domaine des armes chimiques. Le 4 juin, c'est par un communiqué du ministère des Affaires étrangères que l'on apprend le résultat de ces analyses. Le ministère déclare « La France a désormais la certitude que le gaz sarin a été utilisé en Syrie à plusieurs reprises et de façon localisée ». Mais quelle sera la réaction de la communauté internationale? Alors que les preuves s'accumulent, Bachar al-Assad accepte d'inviter deux hauts responsables de l'ONU afin de déterminer les conditions d'une enquête sur le terrain. Le 26 juillet, un accord est conclu. Des responsables des Nations Unies se rendront sur place pour enquêter sur trois sites où l'utilisation d'armes chimiques a été signalée. Le 17 août 2013, cette délégation de l'ONU est sur place. Trois jours plus tard, en pleine nuit, à quelques kilomètres d'eux, dans la Routa, le monstre invisible réapparaît. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août, alors que les enquêteurs de l'ONU sont à Damas, vers 2h du matin, des missiles et des obus de mortier munis de charges neurotoxiques s'abattent sur la banlieue de la capitale, dans les quartiers de la Routa orientale et occidentale. Horreur. Dans la guerre conventionnelle, on peut se cacher et trouver un refuge pour éviter un obus, une balle. Ce soir-là, pour les civils et combattants, la fuite est impossible. Alors, sans bruit, la mort imprègne les vêtements, puis s'infiltre dans les corps. Les yeux brûlent, tout comme la poitrine, l'air s'alourdit. Un survivant se souvient de cette nuit de cauchemar, dans le documentaire « Le souffle de la guerre chimique » de Fabienne Libdima.
Le jour de l'attaque, les missiles qui nous lançaient ne faisaient pas beaucoup de bruit, et ils explosaient dans le ciel. Quand on a vu ça, on est sorti pour voir ce qui se passait. On se demandait ce que c'était. On croyait que c'était des faux missiles donnés par la Russie. On s'est même dit que c'était des armes périmées. Et même, on en riait. Devant moi, trois personnes ont été tout de suite touchées. Elles se traînaient par terre en hurlant. On voyait bien qu'elles ne pouvaient plus respirer. On croyait qu'elles exagéraient. On ne s'attendait pas à ce que les armes chimiques aient un tel effet. Après avoir sorti les six cadavres, j'ai cherché mon frère et mes deux cousins, mais je ne les ai pas trouvés. Alors j'ai enlevé mon masque de chiffon et j'ai essayé de respirer, mais il n'y avait plus d'air. Ensuite, mes mains se sont contractées nerveusement. J'ai essayé de résister, mais j'avais l'impression que mes doigts allaient s'arracher. Mes pieds aussi se contractaient. Puis j'ai senti qu'on me transportait. Un véhicule m'a emmené et j'ai perdu connaissance.
Quelques heures après l'attaque, caméra au point, des rebelles filment dans les hôpitaux de fortune les victimes qui agonisent. Sur ces vidéos, on voit des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sans blessure apparente, mais le corps meurtri par un mal qui ronge de l'intérieur. Torse nu, allongé sur des lits ou sur des sols, des infirmiers tentent de maintenir en vie les victimes grâce à des masques à oxygène. Les autres, les yeux grands ouverts, semblent absents, paralysés. Deux jours après l'attaque, les quartiers sont une nouvelle fois bombardés, non pas pour tuer, mais pour effacer l'épreuve. Des salles de rédaction au ministère, les images font le tour du monde. Lors d'une conférence de presse, Georges Sabra, dirigeant de l'opposition syrienne, estime le nombre des victimes à 1400. Si le chiffre est confirmé, il s'agit du massacre le plus important depuis celui de Halabja en Irak en mars 1988, où environ 5000 Kurdes ont été assassinés lors d'attaques chimiques. Au Quai d'Orsay, dans le bureau du nouveau directeur de cabinet, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Éric Chevalier, fait défiler les photos et vidéos sur sa tablette. Après le choc, le travail des diplomates consiste à rassembler les preuves, mesurer l'ampleur de l'attaque et cibler l'origine de ces frappes. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute. Bachar al-Assad a franchi la ligne rouge, comme le sous-entend Jean-Pierre Filiu, chercheur, historien, spécialiste du monde arabe, sur l'antenne de France Inter.
Jean-Pierre Filiu, est-ce que nous avons vécu un tournant hier dans le conflit syrien ?
Il faut comprendre que j'étais à Alep le mois dernier et que toute la population dans les zones contrôlées par les forces révolutionnaires s'attendait à une attaque massive par les armes chimiques de la part du régime et donc avait préparé des installations de fortune, comme le docteur El Moufti en a témoigné avec une sobriété tout à fait admirable. Il n'y a aucun doute pour la population syrienne que Bachar el-Assad ne reculera devant rien pour ne rien concéder et qu'il est prêt effectivement à lâcher des armes chimiques sur cette population. Mais je dirais que la question n'est même plus là. De toute façon, nous savons qu'il y a des centaines de morts, sans doute plus de 1000. Qu'ils aient été perpétrés par des armes chimiques ou pas, ne change rien au fait que nous sommes face à un crime contre l'humanité et que personne ne fait rien.
Au même moment, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Laurent Fabius prend acte et demande une réaction de force. Toute la journée, dans les coulisses du pouvoir, entre les quais d'Orsay et la cellule diplomatique de l'Élysée, on met en place la stratégie à venir. Car un an, jour pour jour, après le discours de Barack Obama, la ligne rouge a été franchie. Au lendemain de l'attaque, la question n'est donc plus de savoir si la communauté va réagir, mais quand et comment.
مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة لو حتى قلبي تا لو حتى يصرخ لو حتى قلبي تا لو حتى يصرخ طول ما بينا حياة طول ما بينا حياة قلبي رافض
Yes.
Dimanche 26 août 2013, 5 jours après l'attaque de la Ghouta, les inspecteurs de l'ONU obtiennent l'autorisation par le régime de se rendre sur le site de l'attaque chimique présumée pour l'heure. Le même jour, l'ONG française Médecins Sans Frontières annonce la mort dans les hôpitaux de 355 patients présentant des symptômes neurotoxiques sur les 36 000 personnes traitées après l'attaque de la Ghouta. Le lendemain, le 27 août, devant la conférence des ambassadeurs, le président français François Hollande annonce qu'il faut punir le régime.
Aujourd'hui, notre responsabilité est d'une autre nature encore. C'est de rechercher la riposte la plus appropriée aux exactions du régime syrien. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Demain, je réunirai un conseil de défense et le Parlement sera informé de la situation dans les meilleurs délais. Par ailleurs, j'ai décidé d'accroître notre soutien militaire à la coalition nationale syrienne dans le respect de nos engagements européens.
Choc des images et les condamnations, il faut faire accepter par l'opinion le choix d'une réponse militaire face aux crimes du régime syrien. En France, en tant que chef des armées, le président décide seul en la matière. Il n'a aucune obligation d'informer les élus avant le troisième jour qui suit le déclenchement des opérations. La seule obligation de notre monarque républicain est d'obtenir, dans les 4 mois, un vote pour le maintien ou non de l'opération en cours. En Angleterre, le Premier ministre n'a pas obligation non plus de soumettre son projet aux députés, mais il est de tradition qu'il le fasse. C'est un régime parlementaire. C'est pourquoi, le 27 août, David Cameron, le Premier ministre anglais, convoque en urgence la Chambre des communes pour un vote sur la participation de son pays à une intervention militaire. Mais 10 ans après la guerre en Irak, l'opinion britannique est devenue méfiante. À la Ghouta, en attendant que le Parlement anglais vote, les voitures blanches de l'ONU arrivent dans la banlieue de Damas où les attaques ont eu lieu. Les inspecteurs sont munis de masques à gaz, affublés de petites caméras fixées sur la tête et le corps recouvert de toutes parts. Ils collectent les preuves matérielles et s'entretiennent avec des témoins survivants. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de là, les parlementaires anglais disent non aux frappes contre le régime de Bachar al-Assad avec une courte majorité de 13 voix. Au lendemain du refus anglais, lors d'une conférence de presse, John Kerry réaffirme toute la détermination des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine présente un rapport de 4 pages des services de renseignement qu'il rend public. Il affirme que l'attaque de la Ghouta a été sciemment préparée. Il parle d'un nombre de victimes d'au moins 1400 Syriens, dont plus de 400 enfants. Pour lui, l'attaque de la Ghouta est un crime contre l'humanité. Et il conclut son réquisitoire par ces mots: nous savons qu'après une décennie de conflits, le peuple américain est fatigué de la guerre. Croyez-moi, je le suis aussi. Mais la fatigue ne nous absout pas de notre responsabilité et l'histoire nous jugera extrêmement sévèrement si nous détournons le regard sur l'usage injustifié d'armes de destruction massive d'un dictateur. Devant les caméras, tout laisse à penser que l'Amérique est prête à intervenir d'une manière ou d'une autre en Syrie. Pourtant, en coulisses, dans les conversations entre ambassadeurs et diplomates, aucune réponse définitive n'est apportée. Barack Obama doute. Le 30 août, le président américain annonce qu'il choisit de consulter lui aussi le Congrès et donc de reporter les frappes.
Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps. Et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès.
Malgré cette volte-face du président américain, on pense qu'il ne peut s'agir que d'un report. Les projections du vote au Congrès sont légèrement favorables au président, grâce au soutien notamment de personnalités républicaines, dont John McCain. À Paris, le ministre de la Défense laisse le dispositif en alerte. Pourtant, le temps n'est plus aux armes, mais à la diplomatie. À Saint-Pétersbourg, lors du sommet du G20, les 5 et 6 septembre, une autre route se dessine. Vladimir Poutine, principal allié du régime de Bachar al-Assad, récuse les accusations contre le régime et réclame des preuves. Lors de ce sommet, le président russe rencontre son homologue américain et lui propose un deal pour éviter les frappes. Le 9 septembre, la solution russe est présentée. Moscou propose le placement de l'arsenal chimique syrien sous surveillance internationale en vue de sa destruction. Le même jour, Bachar al-Assad intervient sur la chaîne américaine CBS lors d'une interview. Le dictateur syrien réaffirme que les accusations sur l'utilisation d'armes chimiques sont fausses et qu'aucune preuve n'existe, comme c'était le cas en 2003 en Irak.
Cela me rappelle l'énorme mensonge de Colin Powell devant le monde entier à propos des armes de destruction massive en Irak. Il avait dit « voici nos preuves ». Il a donné de fausses preuves. Et aujourd'hui, Kerry n'a présenté aucune preuve. Il a dit qu'il en avait, mais il n'a rien montré.
Le 12 septembre 2013, John Kerry et le représentant de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se retrouvent à Genève. Deux jours plus tard, ils annoncent un accord. Bachar al-Assad a une semaine pour présenter la liste de ses stocks chimiques. Alors que le dictateur syrien accepte l'accord et sacrifie son arsenal pour sauver sa tête, les enquêteurs de l'ONU, eux, poursuivent leurs travaux. Le 16 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présente au Conseil de sécurité le premier rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'attaque du 21 août dans la banlieue de Damas. Pour lui, il s'agit bien d'un crime de guerre. Le rapport établit des preuves flagrantes d'une attaque chimique sur une échelle relativement grande. Certes, mais qui est responsable de ce crime ? On ne sait pas, la mission onusienne n'avait pas pour mandat d'attribuer la responsabilité de l'attaque à l'une des parties en conflit. Pourtant, le rapport donne de nombreux indices sur l'identité de ceux qui ont utilisé des roquettes sol-sol. Or, seule l'armée syrienne en détient. Ce rapport n'est que la confirmation des informations déjà à la disposition des diplomaties. L'annonce du secrétaire général de l'ONU ne change rien. Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution encadrant la destruction de l'arsenal syrien du régime de Bachar al-Assad. La Syrie doit donc se débarrasser de l'intégralité de son stock chimique d'ici mi-2014. À la frontière de la Syrie, les victimes de l'attaque du 21 août 2013 pansent leurs plaies et épousent le destin des réfugiés, comme ces deux hommes qui se souviennent de cette nuit-là devant la caméra de Fabien Lips-Dumas dans son documentaire « Le souffle de la guerre chimique ».
Tout le monde est mort, même les jeunes enfants. Je les ai vus par terre. De la mousse leur sortait de la bouche. Si j'avais pu les sauver, je l'aurais fait. Mais ils étaient morts. Ils ne respiraient plus, c'était déjà des cadavres. J'ai essayé de les retourner. Ils ne bougeaient plus. Il y avait aussi des jeunes, morts aussi. On les a enterrés dans une fosse.
Ça s'est passé il y a un an et demi et... Je me rappelle mes deux cousins qui sont morts. Le monde entier nous regardait mourir sous ces attaques à l'arme chimique.
Malgré la résolution de l'ONU, le 21 avril 2014, la coalition nationale syrienne alerte une nouvelle fois le monde sur de nouvelles attaques chimiques. Elle déclare que les forces gouvernementales n'ont pas cessé d'employer ces armes. Selon eux, ils en auraient fait usage à 9 reprises depuis le début de l'année 2014, dont 6 fois au cours du mois d'avril. Par la voie des airs, à l'aide d'hélicoptères, des barils d'explosifs remplis de chlore à l'état gazeux auraient été largués, notamment à Asrata, Tamala et Astrahan. Un mois plus tard, le 23 mai 2014, une vidéo diffusée sur la toile montre une rue où l'on voit en effet un nuage jaunâtre et des gens courir et tousser. Un journaliste de l'agence Reuters est présent une heure plus tard dans ce village situé dans la province centrale de Hama. Il confirme la fumée jaunâtre et l'odeur de chlore. 5 mois plus tard, le 10 septembre 2014, les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques confirment qu'un agent toxique a été utilisé de manière systématique et répétée dans les villes du nord de la Syrie au début de l'année. En avril 2015, c'est l'ONG Human Rights Watch qui accuse le régime syrien d'avoir utilisé à 6 reprises des barils remplis de chlore dans le nord-ouest du pays, cette fois dans la province d'Idlib. L'ombre des attaques chimiques plane toujours sur les Syriens. En janvier 2014, nous avons découvert d'autres images d'un mal bien plus meurtrier quotidien du régime de Bachar al-Assad. La répression et les tortures jusqu'à la mort, rapportées par un ancien photographe de la police militaire syrienne qui a fait défection en 2013. Cet homme, qui répond au nom de Code César, avait pour mission, avec d'autres, de photographier les corps des cadavres, des opposants ou supposés opposants assassinés dans les prisons du régime. Chaque jour, il a fait des copies de ses archives au péril de sa vie, bien sûr. En décembre dernier, l'une de ses 45 000 photos a été publiée dans le journal Le Monde. On y voit trois rangées de corps squelettiques, masculins en sous-vêtements ou nus, tous morts et disposés sur le sol. Derrière le bruit des bombes et des combats, derrière les images des batailles urbaines entre opposants et fidèles du régime, derrière les choix diplomatiques des puissances étrangères en faveur de l'un ou l'autre, quand la machine de mort tourne sans cesse au cœur de la Syrie. Comme pour le massacre chimique de la Ghouta et ceux qui l'ont précédé et suivi, pourrons-nous dire que nous ne savions rien de cette mort qui s'abat dans les prisons du régime syrien, loin des champs de bataille ?
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber bands to get rid of itself. The world's around. The world's around. The world's around.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'utilisation des armes chimiques par le pouvoir syrien. Notre invité, c'est Garance Lequen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes grand reporter, indépendante. Alors, vous avez travaillé pour le journal du dimanche, le Nouvel Observateur, notamment. Vous avez publié un livre événement intitulé « Opération César » chez Stock, hein, où vous racontez le quotidien et l'organisation de la machine de mort du régime syrien à l'aide de témoignages. Donc celui de César, d'où le titre. César que nous avons évoqué dans le récit, il s'agit de ce photographe de la police militaire qui a risqué sa vie et qui a exfiltré pendant 2 ans 45 000 photos et documents de détenus torturés à mort, et nous y reviendrons. D'ailleurs, cette conversation sera en deux volets, l'utilisation d'armes chimiques et ensuite la torture au quotidien, si vous le voulez bien. Alors, c'est le travail des deux envoyés spéciaux du journal Le Monde qui a changé la donne quand même avec les témoignages qu'on a eus. Mais les services de renseignement étaient au courant de déplacements de stocks et d'attaques, je crois, bien avant avril 2013. Vous confirmez ?
Oui, j'ai pas les informations exactes.
C'est difficile. Par nature, c'est difficile.
Ce que je peux confirmer, c'est que avant l'attaque du 21 août 2013 à la Ghouta, il y avait eu une cinquantaine d'attaques localisées, notamment dans le nord de la Syrie. Ces attaques ont été, le nombre de ces attaques a été établi par une organisation syrienne de droits de l'homme. Des petites attaques localisées qui tuent une personne ou qui blessent simplement quelques personnes. Pourquoi ce sont des attaques menées dans des zones tenues par l'opposition, donc par l'opposition à Bachar al-Assad, au régime syrien. On pense que le régime a voulu tester justement la communauté internationale. Ce sont 50 attaques entre décembre 2012, donc la première est à Homs, vous en avez parlé tout à l'heure, et jusqu'à celle de la Ghouta en août 2013. Donc attaques localisées pour tester la communauté internationale, pour faire peur également, parce que c'est une arme qui ne fait pas de bruit, qui tue sans... presque sans laisser de traces.
Oui, elles sont intérieures.
Voilà,
elles n'en sont pas moins douloureuses, évidemment, mais elles sont intérieures.
Et ces attaques ont commencé à être documentées, notamment par des médecins syriens, puis des médecins franco-syriens. Des échantillons sont sortis, avec effectivement Jean-Philippe Rémy et Laurent van der Stock, mais également avec des médecins syriens. Et je pense notamment à l'attaque chimique de Sarakeb du 29 avril 2013, où quelques jours après, la France avait déjà des échantillons de sarin.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces échantillons rapportés qui sont à l'origine de la mission de l'ONU sur place en Syrie en août 2013?
Non, la mission de l'ONU en fait est demandée par le régime syrien lui-même. C'est une mission
contre les opposants, c'est ça? C'est quoi le but?
En fait, au départ, ça part d'une attaque chimique à Rahn el-Assal, à côté d'Alep, le 19 mars, je crois, 2013. Attaque que le régime syrien attribue au Front al-Nosra, donc un groupe proche d'Al-Qaïda, affilié à Al-Qaïda. Et Bachar el-Assad demande donc une enquête de l'ONU.
Quel cynisme!
Oui,
quand même.
Quel cynisme
Parce que y a déjà eu des tests d'armes chimiques de la part du pouvoir à ce moment-là, ou non?
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on le sait? Je ne m'en souviens pas exactement.
Auquel cas, ce serait effectivement du cynisme.
Du cynisme. En même temps, cette attaque, les victimes sont du côté régime.
Oui,
on pense que le régime a mal évalué et a tiré a voulu viser les rebelles, mais a visé ses propres soldats. Après, il y en a qui disent qu'effectivement c'était le Front al-Nosra qui a mené cette attaque. Moi, je ne sais pas et on n'a pas le résultat. Mais c'est bien le régime de Bachar el-Assad qui demande à l'ONU de mener une enquête. Et l'ONU, cette mission menée par Åke Sällström, un Suédois, mène cette enquête et qui va aboutir au rapport en décembre 2013 ils vont mener une enquête sur 16 allégations d'attaques chimiques et ils vont se centrer sur 7 attaques, dont celle de la Ghouta et celle de Sarakeb.
Alors, lors de l'attaque de la Ghouta, si je ne m'abuse, les enquêteurs de l'ONU sont à Damas, ils sont à quelques kilomètres du drame, c'est bien ça?
Ils sont arrivés à Damas quelques jours avant et ils vont effectivement sur place. C'est très très tendu pour eux. Åke Sällström le raconte plus tard. Ils ont évidemment peur, mais ils récupèrent des échantillons. Mais ce qui est à la fois dramatique et ce qui montre aussi la complexité de ce conflit, c'est que la mission de l'ONU n'a pas pour but de dire qui sont les auteurs de ces attaques.
On le rappelait dans le récit.
Oui. C'est important parce que les Syriens vont être extrêmement déçus du rapport va effectivement dire qu'il y a eu des attaques chimiques à cet endroit en Syrie, mais ne va pas désigner de coupables. Mais l'ONU n'avait pas à le faire. Il faut rappeler que les Nations Unies sont le rassemblement des nations. Donc c'est évidemment politique. Et à l'époque, l'ONU ne pouvait pas, notamment à cause des Russes, ne pouvait pas désigner les coupables de ces attaques.
Donc c'est pas l'ONU qui change la donne en termes de prise de conscience et des décisions qui peuvent être prises à partir de cette prise de conscience. Ce sont les images, ce sont le travail des reporters. C'est comme d'habitude d'ailleurs. Les observateurs ou dits observateurs, ceux qui vont sur place, qui peuvent changer la donne?
Ça peut changer la donne parce que ces images ont une valeur de plaidoyer. Elles n'ont pas valeur de preuve dans un tribunal. Elles pourront peut-être faire acte de preuve, mais je n'en suis pas sûre. En revanche, elles ont une valeur de plaidoyer extrêmement importante. Donc, elles ont une valeur pour éveiller la conscience des nations.
Pourquoi Obama n'a-t-il pas tenu son engagement? Parce que quand il parle de ligne rouge, un an avant, c'est clair, une ligne rouge, c'est une ligne qu'on ne peut pas franchir. À partir du moment où on l'a franchie, eh bien, on s'expose à des représailles, des sanctions, peut-être une intervention, et là non. Qu'est-ce qui se passe?
Mais Obama ne veut plus intervenir au Proche-Orient. Il l'a dit, il a été élu pour ça, donc il ne veut pas intervenir. Le lendemain de l'attaque de Sarakeb, le 29 avril 2013, il est interpellé lors d'une conférence de presse et il dit effectivement, il y a eu à nouveau une attaque, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui. Et il pose ces questions-là en direct. Et le lendemain, un jeune Syrien va commencer à collecter des preuves de cette attaque de Sarakeb et va apporter les preuves à l'ONU, espérant que ça va arrêter la guerre ou changer le cours de la guerre. Et ça ne changera pas le cours de la guerre.
Alors finalement, ce sont les Russes qui trouvent une porte de sortie à cette crise, enfin, qui est plus qu'une crise, qui est un drame humain, avec la signature de la Convention de la destruction des stocks d'armes chimiques. En avril 2015, Bachar al-Assad reçoit le journaliste David Pujadas pour un entretien. Il l'interroge justement sur les attaques aux barils d'explosifs, dont on va reparler.
Parlons du présent. Il apparaît que l'armée syrienne continue à utiliser des armes aveugles et notamment des barils explosifs qui ont des effets dévastateurs pour les civils. Pourquoi poursuivez-vous cette stratégie ?
Nous n'avons jamais entendu parler au sein de notre armée d'armes aveugles. D'ailleurs, aucune armée au monde, y compris la nôtre, n'accepterait d'utiliser des armes qui ne peuvent pas cibler avec précision, car elles n'auraient aucun intérêt. Elles seraient inutiles d'un point de vue militaire.
Vous n'utilisez pas de barils explosifs.
C'est quoi les barils explosifs? Pouvez-vous me dire ce que c'est?
Il y a des documents, des vidéos ou des photos comme celle-ci où on peut voir un baril explosif largué d'un hélicoptère. Ceci est à Alep, ceci est à Hama, il y a quelques mois, il y a un an. Seule l'armée syrienne possède des hélicoptères. Quelle est votre réponse?
Ce n'est pas une preuve. Ce sont deux images de deux choses différentes. Personne ne peut les relier l'une à l'autre.
Est-ce que vous dites que c'est un montage? Vous dites que ce sont de faux documents?
Non. Il faut que ce soit vérifié. Mais dans notre armée, nous n'utilisons que des bombes conventionnelles qui nécessitent de viser. Nous n'avons aucun armement qui puisse être utilisé aveuglément. C'est tout.
Bon, c'est clair, hein, la stratégie de défense, si tant est que c'en soit une, de Bachar al-Assad, c'est apportez-moi des preuves de ce que vous dites et on verra après. Hein. C'est le déni, quoi, constamment. Alors, pendant l'été 2014, vous êtes à Alep, bien ça. Qu'avez-vous vu là-bas?
J'étais à Alep avec la photographe Loranger. Ouais. On a passé une petite semaine à Alep, donc en juillet 2014. Et le 9 juillet au matin, nous avons dormi dans le quartier d'Al-Shar, un quartier qui était visé régulièrement par des barils et par des bombes. Le reste du temps, on dormait près de la ligne de front, parce que près de la ligne de front, vous risquez moins de recevoir des barils, évidemment, puisque les barils ne sont pas du tout précis. Donc, ce mardi soir, on décide de dormir à Char, parce que en dessous, au sous-sol de cet immeuble, il y a une boulangerie souterraine, pour se protéger des barils, justement. Et on a rendez-vous avec Amir le lendemain matin, on a passé la soirée avec lui, pour avec lui faire une distribution de pain aux orphelins. Donc on dort dans un bureau, c'est le ramadan, on se couche tard évidemment, et à 7h30 du matin, on est réveillé par une énorme déflagration, une première bombe qui tombe à 200-300 mètres du bureau où on a dormi. On met nos chaussures, on file sur le lieu de la bombe, on voit des premiers blessés, des premiers morts, et puis on dit il faut partir très vite, puisqu'on sait que l'aviation du régime bombarde très peu de temps après, une demi-heure, trois quarts d'heure après.
Il y aura un deuxième et un troisième.
Et il y aura une troisième bombe, et la troisième bombe va tuer Amir, avec qui on avait rendez-vous le lendemain matin, qui était venu porter secours aux blessés, parce que les blessés des premières et deuxièmes bombes sont allés dans des hôpitaux, qui étaient à 300 mètres de l'endroit où on a dormi, et ces deux hôpitaux, tout près l'un de l'autre, ont été visés par la troisième bombe 2 heures plus tard. Donc il y a des bombes et il y a des barils. 2 jours après, on a vu un baril tomber, et un vieux monsieur récupérer sa femme, en bouillie, en morceaux.
Bah, ce qui corrobore aussi le témoignage qu'on a évoqué pendant le récit de ce journaliste, qui a bien vu les barils, qui a bien vu de la fumée. En 2014, alors, un autre monstre du régime meurtrier apparaît, sont les morts au quotidien, morts de la répression, c'est la torture. Hein. Et grâce aux photos et documents transmis donc par César, ce photographe de la police militaire qui a risqué sa vie évidemment pour exfiltrer pendant 2 ans ses 45 000 photos et documents de détenus torturés à mort, d'où le titre de votre livre, Garance Lequen, Opération César. Qui est ce monsieur?
César était un photographe de la police militaire du régime syrien et il était chargé avec son équipe de photographes de photographier des corps de soldats mort dans un accident de la route, tué par quelqu'un sur un champ d'opération quelconque. Comme beaucoup d'armées dans le monde, on documente la mort de ces soldats. Donc il était chargé de faire cela avant le début de la Révolution. Et quand la Révolution démarre en mars 2011, on lui demande, à lui et son équipe, de photographier d'abord des manifestants tués lors des manifestations pacifiques, notamment à Daraa, dans le sud du pays, là où démarre la Révolution. Et puis, le temps passant, il s'aperçoit qu'on lui demande de photographier des cadavres, visiblement des détenus, des civils qui sont morts dans les centres de détention du régime.
Et on se demande pourquoi, d'ailleurs, tous ces régimes totalitaires, brutaux, ont ce pointillisme incroyable, hein, de classement, de bureaucratie, de photos. C'est toujours tout à fait saisissant parce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire de meurtres comme ça, organisés, planifiés et avec des preuves, toutes les preuves, comme si un jour il devait donner des preuves. C'est tout à fait étonnant. Ce César, il est où maintenant? Il se cache évidemment, j'imagine, quelque part.
En Europe du Nord.
En Europe du Nord.
Oui, il se cache.
Alors, en juillet 2013, déjà l'ONG Human Rights Watch avait publié un rapport intitulé « L'archipel de torture ». Il n'y avait pas d'image. Hein. Et l'un des nerfs de cette guerre est la récolte d'informations et de preuves, d'où le travail si précieux de César, cette image comme preuve. Je vous propose d'écouter une lecture, enfin je propose aux auditeurs, pas à vous bien sûr, puisqu'il s'agit d'écouter une lecture de deux extraits de votre livre où César raconte son quotidien.
Avant la Révolution, les membres du régime torturaient pour obtenir des informations. Aujourd'hui, ils torturent pour tuer. Des personnes avaient des coupures profondes, des yeux arrachés, des dents cassées, des traces de coups, avec des câbles qui servent à démarrer les voitures. Il y avait des plaies pleines de pus, comme si elles n'avaient pas été soignées pendant longtemps et qu'elles s'étaient infectées. Au pied du palais présidentiel, chaque jour ou presque, de nouveaux cadavres arrivent, que les militaires vont apprendre à traîner, porter, puis trier, selon les branches des services de renseignement où ils ont été détenus. Chaque jour ou presque, les mêmes gestes. Le médecin légiste arrive, vers 7 heures, un cahier à la main, bloc de grandes feuilles agrafées et divisé en 3 colonnes. Il passe d'un corps à l'autre. Chaque corps porte 2 numéros, inscrits au marqueur, sur la peau ou sur un bout de scotch. Le premier correspond à son numéro de détenu. Le deuxième indique le numéro de la branche des services de renseignement où il a été détenu. Le médecin légiste en attribue un troisième pour son rapport médical.
Voilà, extrait de votre livre, évidemment extrêmement intéressant, dur, parce que forcément le sujet est dur, et moi je pense toujours aux victimes, aux proches de victimes en Syrie, s'ils nous voyaient parler, s'ils nous entendaient parler d'eux, s'ils nous voyaient lire ce livre, peut-être cela les soulagerait un peu. Enfin, c'est notre démarche, hein, finalement, lire un livre comme ça, c'est quelque part, c'est surtout de ne pas les oublier, quoi.
Je pense que c'est important, puisque tout à l'heure, en écoutant les extraits de l'attaque chimique de la Ruta, on entendait les gens crier,
ouais.
Les enfants, enfin, il y a d'autres vidéos où on voit des enfants crier, là, on les entend pas. Ceux qui sont dans les centres de détention, on ne les entend pas, et pourtant, il est évident qu'ils ont crié sous la torture. Et est-ce qu'ils ont crié en mourant? En tout cas, ils avaient certainement des cris intérieurs, et il faut pouvoir les entendre, oui.
Un système de torture qui est au cœur de la capitale, Damas, notamment dans votre livre, vous parlez de cet ancien proviseur d'un lycée français, qui évoque, alors je le cite, hein, la capacité à supporter l'insupportable à proximité, parce qu'ils n'ont pas le choix, évidemment.
Alors, c'était une phrase qu'il a dite au micro d'Europe 1, si mes souvenirs sont bons, à propos des bombardements. C'est vrai que j'ai repris cette phrase-là, puisque le lycée français de Damas est dans le quartier de Mézeh. Et le dernier bâtiment du lycée français est à 50 mètres de l'hôpital militaire de Mézeh, là où César et son équipe étaient chargés de photographier des cadavres.
Je reviens sur la présence des journalistes qui sont des témoins, qui nous renvoient l'une des phrases d'Albert Londres, éclairer les zones d'ombre, c'est peut-être déjà un peu soulager les populations. Quelle est la situation pour les reporters en Syrie en 2013? D'ailleurs, 4 journalistes français avaient été kidnappés, enlevés, comment on travaille dans ces conditions-là?
Alors en 2013, on ne rentre pas en Syrie. En tout cas, les journaux ne nous laissent pas, nous donnent pas l'autorisation pour rentrer en Syrie, puisqu'on devait y retourner avec l'Oranger et on n'a pas pu y aller. Par exemple, pour l'attaque chimique de la Ruta, on fonctionne par Skype. Ouais. On appelle les gens, ce sont nos contacts. On ne peut pas rentrer. On pourrait y retourner plus tard, mais l'été 2013, c'est vraiment fermé pour nous à cause justement des otages français.
Alors il y a maintenant Daesh, donc il y a les opposants au régime, il y a Daesh, il y a le régime, et on a envie de se poser la question, c'est-à-dire mais où sont les monstres ? Qui sont les monstres finalement ? Parce que la présence de Daesh avec aussi ses actes terroristes à l'extérieur et notamment chez nous hein, a peut-être déplacé le curseur de notre attention. Mais où sont les monstres ? Qui sont-ils ? Peut-être les trois.
Les monstres sont du côté de Daesh et ils sont également du côté du régime. C'est compréhensible pour nous Français d'être attirés par Daesh, ça s'explique, c'est un ennemi très facile aussi à identifier. En plus, c'est un ennemi qui nous a visé sur notre propre sol, qui a tué certains de nos concitoyens. Donc voilà, le régime, c'est plus compliqué de voir sa barbarie, c'est plus long pour nous journalistes de travailler dessus, mais il est évident que ce régime commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre.
Et selon vous, que font les Russes en soutenant ce régime ? Pourquoi ils agissent comme ça ? Non, on n'est pas dans le reportage de terrain, je sais, on est dans la géopolitique. Mais...
Il faut demander à Vladimir Poutine. Je pense qu'il n'a pas envie de lâcher la Syrie. Il a une base navale. C'est aussi une façon de revenir sur la scène internationale. Il faut penser à ce qui s'est passé en Ukraine, il faut penser à ce qui se passait il y a quelques années où seuls les États-Unis étaient en fait la dernière grande puissance. Vladimir Poutine veut revenir dans le jeu de la scène internationale et la Syrie le lui permet.
Poutine veut retrouver la puissance de l'URSS sans le communisme, en gros. Hein. Et c'est quoi le sentiment des Syriens devant les atermoiements de la diplomatie mondiale ? Sentiment d'abandon, c'est quoi ?
Le sentiment d'abandon est là depuis très très longtemps en fait. Ouais. Déjà en 2012-2013, il y avait ce sentiment d'abandon, une perte de confiance totale dans la communauté internationale, même si des dizaines de Syriens continuent de collecter des preuves de crimes de guerre, des preuves de crimes contre l'humanité, parce qu'ils savent qu'un jour il faudra rendre justice et que c'est la seule façon que leur pays se reconstruise. Donc voilà, il y a une perte de confiance et en même temps une maturité qui leur permet de se dire il faut tenir et un jour on aura justice et il faut l'avoir pour nos enfants.
Et comment vous voyez-vous, parce que vous avez déjà évoqué ça un peu dans votre réponse, mais l'avenir de la Syrie ?
La Syrie d'avant n'existe plus, n'existera plus, je pense. Mm-hmm. C'est fini. Trop de villes sont détruites, trop de gens ont été déplacés. On risque d'avoir trois Syries, quelque part. La Syrie du régime, la Syrie de Daesh, la Syrie des Kurdes.
Une partition.
Une partition. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que les négociations de paix sont extrêmement importantes. Il faut arrêter cette guerre et il faut pouvoir négocier des cessez-le-feu locaux et essayer de commencer à reconstruire. Mais je pense aussi qu'il faut faire confiance aux Syriens.
Garance Lequen, je vous remercie infiniment et j'encourage nos auditeurs donc à lire ce livre, même si la lecture est difficile, mais je crois qu'elle est utile. C'est peut-être aussi un soutien de notre part. Ça s'appelle Au cœur de la machine de mort syrienne, édité chez Stock. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.